Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro. Pour la prochaine heure avec vous, pour parler bande dessinée, pour parler 9e art et surtout plus précisément cette semaine, puisque l'émission sera consacrée à un seul titre, eh bien, pour parler de créatures. Donc, premier tome, La ville qui ne dort jamais, qui est arrivé tout récemment là, sur les étaux des libraires. Premier tome d'une nouvelle série de Stéphane Bette-Bédé et JF, auteur de Québec, qui sera avec nous donc pour les 50 prochaines minutes et plus pour parler de ce livre et pour porter un regard approfondi, évidemment, autour de cette nouvelle série. Une nouvelle série qui, personnellement, s'avère fort prometteuse. Après la lecture du premier tome, j'ai déjà bien, bien hâte de dévorer le deuxième et je l'imagine bien, les tomes subséquents. Et JF, donc, qui nous revient avec cet ouvrage après avoir fait un détour dans la BD historique. On pense avec les liaisons dangereuses, on pense à Broadway, donc dans différentes époques, dans différents univers. Il nous avait également offert Le Crépuscule des Dieux, White Crows, Saint-Germain, entre autres séries, entre autres univers. Et pour Créatures, eh bien, les lecteurs du journal Spirou voyaient déjà la série venir depuis un certain temps. Plusieurs pages couvertures de ce côté, un bel effort de l'éditeur donc pour mettre de l'avant ce nouvel univers, cette nouvelle série. Et on avait bien hâte de mettre la main là-dessus, ce qui a été fait. Et maintenant, ben, on a bien hâte d'en jaser avec son auteur. Alors, on plonge immédiatement avec JF autour de Créatures, premier tome. BD, on plonge maintenant vers l'album Créatures, premier tome qui nous est arrivé tout récemment sur les étaux des libraires, un premier tome qui est intitulé La ville qui ne dort jamais. C'est de Stéphane Bette-Bédère au scénario et c'est de JF du côté du dessin. JF est avec nous, bonjour.
Salut Raymond.
Alors, nouvel album, et on t'a vu passer vers Dupuis aussi avec cet album-là. On a retrouvé ça en couverture de Spirou également. Donc, j'ai l'impression, et je me place un peu dans d'autres conversations qu'on avait eues dans le passé, ça doit être un peu un rêve d'enfant de se retrouver dans le journal de Spirou, de se retrouver chez Dupuis qui est réalisé pour toi.
Exact, parce que, bon, moi, j'avais toujours eu l'intention de faire du jeunesse, ou du tout public, en fait. Et puis, le fait d'être publié chez Dupuis, pour moi, c'était un rêve réalisé. J'avais déjà fait des passages dans le journal Spirou, dans les années 2003-2004, mais c'était toujours des courts récits. Souvent, c'était scénarisé par Alcante à l'époque ou des fois c'est scénarisé par moi-même. Puis, finalement, tu m'as retrouvé avec une série complète, un truc qui de passage dans le journal, qui est publié ensuite en album. C'était vraiment le rêve qui se réalisait.
Surtout qu'ils l'ont quand même dans le journal, pas mal mis de l'avant, avec quelques pages couverture. Donc
une belle promotion derrière ça. Dupuis est derrière nous sur ce projet-là depuis le début.
Et j'imagine que pour les auteurs, ben, d'un côté, ça met en confiance parce qu'on sait que l'éditeur nous accompagne, va nous laisser l'espace, dans le fond, pour mettre en place la série. Mais de l'autre, ça veut dire aussi qu'il faut livrer la marchandise et qu'il faut livrer dans le contexte. Oui, il y a un peu de pression. Puis j'imagine qu'il y a le contexte aussi de production avec, d'un côté, le journal où il faut livrer des planches quand même assez régulièrement. Donc, on ne se retrouve pas dans un mode, entre guillemets, classique de production d'un album quand on se retrouve avec ce mode de publication-là.
Oui, c'est vrai que là, c'est particulier parce que, bon, déjà, le premier tome devait sortir l'année dernière au mois de juin. Et puis, ben, compte tenu des circonstances, compte tenu de ce qu'on a vécu tous et toutes, l'album, ben, ils ont décidé de le sortir seulement en janvier de cette année. Et puis, compte tenu aussi que le tome 2 était déjà bien avancé, ils nous ont dit, bon, ben, dans ce cas-là, la prépublication du tome 2 pourra se faire à peu près en même temps que la sortie du tome 1, autour de janvier 2021. Et moi, je dis pas de problème, on a tous vérifié ensemble les horaires, pas les horaires, mais plutôt les calendriers de livraison, puis tout concordait, ça fonctionnait. Il y a juste... finalement, les dernières planches qu'il a fallu que je livre d'une manière un peu plus rapide parce que là l'album est terminé, le tome 2, je viens de le finir, ça fait même pas une semaine, que les dernières planches vont être en pré-publication dans une semaine ou deux. Donc, il fallait que je livre, finalement, le 1er mars, là, c'était livraison des dernières planches finales. Donc, il a fallu, c'est vrai que je donne un petit coup d'accélérateur sur la production des dernières pages, sauf que l'album était vraiment bien, bien avancé. Puis c'est quand même un 70 pages, il faut dire. C'est plus, je m'occupe des couleurs en plus, donc c'est un petit peu plus de boulot.
Oui, puis en fait, 70 pages d'ailleurs, ça donne un peu plus de latitude, j'ai l'impression, pour la mise en scène, pour laisser les éléments respirer, se placer. C'est aussi quand on parlait tantôt de la confiance, de l'appui de l'éditeur, de vous laisser aller avec ce format-là, c'est aussi, j'imagine... D'un côté, une belle confiance, d'autre côté, un plus beau terrain de jeu qui vous offre aussi.
Oui, tout à fait. Puis Stéphane, justement, au scénario, lui, il s'est beaucoup amusé, il s'est beaucoup permis de mettre des scènes, d'allonger certaines scènes, de rendre un peu plus intéressant certaines dynamiques de personnages, certains caractères. Il a vraiment développé la psychologie de certains personnages qui étaient... Et je pense qu'on avait la place pour faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, mine de rien, après deux tomes, on a 140 pages d'histoire qui est équivalente pratiquement à trois albums traditionnels, 46 pages. Donc, on a vraiment de la place. Moi, en tout cas, graphiquement, ça m'a permis aussi de faire des scènes où est-ce qu'il n'y avait pratiquement pas de dialogue, où est-ce qu'on avait juste des travelling sur du décor ou faire une mise en situation en me laissant... toute la liberté graphique là, que je pouvais demander pour un album comme ça.
Oui, puis d'ailleurs, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est annoncé dès le début du premier tome. Je veux dire, les quatre premières planches et demie, presque, c'est sans dialogue, c'est muet.
C'est ça.
On établit l'univers et je me dis, OK, là, tu sais, on prend le temps de bien faire les choses, de bien placer. Ouais. Et en même temps, c'est tellement nécessaire parce que cet univers-là, il y a tellement une ambiance qui en découle, qui devient intrinsèque à l'expérience de lecture qu'on doit avoir.
C'est ça, exactement. C'est un récit qui est vraiment... basé beaucoup sur l'atmosphère, qui est basé sur les ambiances. Faut vraiment qu'on ressent, qu'on ait l'impression qu'on s'immerge là, dans cet univers-là. Donc, il fallait prendre le temps de bien mettre en place les éléments graphiques, les décors, les personnages.
Et peut-être pour nous situer, là, on va prendre un pas de recul, placer un peu l'histoire. On est dans un New York, j'aurais tendance à dire futur post-apocalyptique. Il s'est passé quelque chose, évidemment, on ne le sait pas encore, on le découvrira en cours de route. Où les enfants sont-ils isolés? Les adultes ont été, à défaut d'un meilleur terme, et j'ouvre les guillemets, zombifiés. Donc, c'est un peu les éléments qu'on place. Et à l'intérieur de ça, dans cet univers, on va suivre différents personnages qui essaient de survivre, qui essaient de s'entraider. Et qui essaie, j'imagine, éventuellement de résoudre ou de dénouer les aboutissants de cette situation-là dans laquelle ils se trouvent.
Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une histoire de survie, puis d'amitié entre différents gamins qui, au départ, ne se connaissent pas tous, puis finissent par travailler ensemble, un peu malgré eux au départ. Puis après ça, dans la série, on va voir comment justement les relations se tissent et puis se développent. Mais à travers ça, il y a un mystère. Puis le mystère, c'est pourquoi justement c'est la ville de New York qui est sous l'emprise de créatures. Pourquoi les adultes sont aussi sous l'emprise d'une espèce de ils ont comme si, c'est comme si finalement qu'il y avait une entité qui prenait leur esprit puis qui les contrôlait. Et puis on le sait pas, on n'a aucune idée. On laisse des petits détails, on laisse des brides de d'informations dans le premier tome sur d'où vient cette menace puis qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais on va le développer sur plusieurs tomes. On va avoir sur 3-4 albums. On va révéler le mystère du récit.
Et on se retrouve avec un récit qui, oui, en fait, a priori, a un côté fantastique, mais je trouve aussi, et fait intéressant, un côté horrifique. Dans le fond, on l'assoit dans certaines mythologies. Je ne veux pas trop en dire parce que ça arrive un peu exact, dans un punch exact. À la fin, mais je pense qu'il y a un côté horrifique là-dedans, mais c'est de l'horreur tout public aussi. Donc, ça doit être un beau défi à bien construire cet élément-là pour amener aussi les plus jeunes vers ce type d'univers-là.
Exact. Parce que tu vois, à la base, le récit avait été pensé pour un public plus young adult. Et puis, Stéphane l'a vraiment pensé dans cette optique-là, de voir quelque chose un peu plus vieux. Et puis, c'est moi qui ai proposé d'adapter tout ça pour un public du puits, un tout public. Et donc, on a retravaillé, lui a retravaillé aussi beaucoup sur son scénario. Puis, on a vraiment tout retravaillé ensemble, le récit, pour pouvoir aller chercher autant les jeunes que les adultes. Et c'est ça qui n'était pas évident, parce que, comme tu dis, on part quand même d'un principe où est-ce que c'est de l'horreur, où est-ce qu'on va chercher des éléments littéraires aussi. Et puis, on mélange tout ça ensemble, puis on essaie d'en faire un récit qui est divertissant, dans le fond. Donc, c'était un beau jeu d'équilibriste, je dirais.
Et j'ai l'impression que la première posture que vous aviez prise, ou du moins ce que je ressentais à la lecture, c'est dire, ben, on prendra pas les jeunes pour des imbéciles, on sait qu'ils sont capables d'en prendre, et on est capable, exact, sans nécessairement dépasser des limites, parce que c'est pas un album, à mon sens, qui va faire des cauchemars, mais on les amène quand même vers ce type d'univers-là aussi, on réussit à faire quand même des bons pas avec eux.
C'est ça, c'est qu'on a quand même, je pourrais dire, on a un univers qui est un peu anxiogène, il ne faut pas se le cacher. Là. Mais bon, comme c'est coloré, c'est une mise en scène qui est dynamique, on ne va pas essayer de plomber le moral des jeunes avec notre récit, même si des fois on aborde certains éléments qui sont plus durs, mais ça reste quand même bon enfant. Puis je pense que c'est un horreur, oui, c'est de l'horreur, mais ça nous fait frissonner, mais à la fin de l'album, on le ferme, puis on sait que c'est une histoire, puis on n'en fera pas des cauchemars, comme tu dis.
Exact. En fait, mais ça reste intéressant d'exploiter, parce qu'il y en a peu, en fait, je veux dire, il y a peu de récits qui osent faire ça et qui réussissent à le faire aussi. Et je pense, Rita, que vous réussissez, à mon sens, en fait, les plus jeunes, chez moi, l'ont lu, l'ont parcouru, ça semble avoir eu l'effet.
Oui, donc ça l'a pris.
mais l'idée de départ, en fait, Jeff, tu disais, dans le fond, Stéphane Bébédard, en fait, avait pensé au départ à l'idée, c'était pour un public un peu plus vieux, finalement, on le ramène vers un public plus jeune. Donc, d'où est venue un peu cette idée-là, d'un côté, de ce type de récit, un peu de survie, un peu après l'apocalypse, de l'autre, l'ancrage aussi, l'idée de l'ancrage littéraire qu'on va chercher vers certaines mythologies et autres. Donc, d'où est venu le point de départ de tout ça? Parce que là, vous étiez sur les liaisons dangereuses, donc c'est quand même un équilibriste d'un genre à l'autre.
En fait, on terminait le troisième tome, et puis là, il fallait trouver un nouveau projet. Et puis, moi, j'étais avec Stéphane au festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Et bien, enfin, on s'en allait vers Quai des Bulles, puis on était dans le train. Et c'est rigolo, parce que je me rappelle très bien, hein, on est passé à travers une espèce de brume dans le voyage. Ça a duré même pas 5 minutes, 10 minutes. Puis là, il y a eu une ambiance vraiment bizarre, une ambiance de lumière très, très, très blafarde. Et puis là, Stéphane a commencé à me raconter cette histoire-là de New York, où il y avait une invasion de créatures, tout ça. Puis ça, c'est là que, justement, on avait les mêmes références au niveau, comme on disait, littéraire. Puis moi, ça m'intéressait tout de suite, ce genre de récit, puis cette référence-là. Et donc, moi, j'ai dit, écoute, on le fait, cette histoire-là. C'est sûr, ça, c'est génial. Il y a quelque chose à réaliser, quelque chose à faire avec ça. Et donc, après, c'est là qu'on en aura discuté. Il y a eu l'approche auprès du puits. On a fait le dossier. Ça a quand même pris un certain temps avant de tout mettre en place, les personnages, tout mettre en place, l'univers, la cohérence du récit. Et puis, entre-temps, c'est ça, moi, j'ai terminé le troisième tome des liaisons. Et on est parti ensemble sur Créature, je pense, en 2019. Donc, ça fait déjà quand même 2 ans.
Voilà. Et j'imagine, dans le contexte aussi d'une relation, d'une dynamique de travail qui était déjà bien établie, dans le fond, le fait d'avoir déjà une série derrière, ensemble.
Oui, puis moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 mois à Nantes en 2018, fin 2018. Et Stéphane habitait à Nantes à l'époque. Donc, on a pendant 2 mois, on a travaillé ensemble sur autant sur la fin du des liaisons que sur le début de créature. Donc, on a mis en place justement tout l'environnement. On a fait du repérage carrément sur New York, où est-ce que ça allait se passer les événements puis les scènes. Et donc ça a permis justement pendant 2 mois de faire de poser une base là, solide au récit.
Oui, puis surtout dans ce type de récit-là, à mon sens, les bases solides sont essentielles. Mmh. Oui, on est dans on est dans de la construction de monde. Si les règles ne sont pas claires pour vous puis pour nous, ben, on s'y perd. Donc, il faut que l'univers soit bien établi, soit compréhensible et surtout soit compréhensible quand même largement. Donc, il ne faut pas aller dans une mythologie qui est trop complexe, qu'on a besoin de pages et pages pour expliquer non plus.
Exactement. Au départ, on avait dans les premières versions du scénario, on amenait beaucoup de réponses rapidement. Puis ça, à la base, je dirais qu'il y a aussi notre éditeur, là, Frédéric Niff, qui nous a un peu guidés à travers l'écriture. Ils nous ont dit, non, là, vous allez trop vite. Nous, on veut quand même mettre en place cette série-là sur plusieurs tomes. Donc, allez-y plus progressivement au niveau de la révélation du mystère. Puis de toute façon, vu que c'est un récit qui marche beaucoup sur le mystère, justement, sur le secret, une fois que c'est révélé, le récit est fini, donc il ne faut pas trop en dire rapidement. Et puis, une fois que le lecteur va tout savoir, la série va terminer. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut quand même y aller de façon parcimonieuse.
Et on se donne une vision, j'imagine, de votre côté sur plusieurs tomes. On se dit qu'on va avoir besoin de 3, 4 tomes.
Oui, on sait à peu près. On a plusieurs versions de scénario, dans le sens qu'on ne sait jamais si l'histoire va faire plus que 4 tomes ou 6 tomes. Mais on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va. Puis on sait jusqu'à combien de tomes on peut étirer ou plutôt bien raconter notre récit. Mm-hmm. Donc, c'est pas une série qui va aller sur du 15-20 albums. Là. Ça va être peut-être du 6-8. Mais on va bien raconter ce qu'on a à raconter. Mais si on a besoin de le raconter en 4 tomes, on va le faire aussi en 4 tomes, il n'y a pas de problème.
Et tout ça, ben, dans le fond, peut-être d'emblée, on parlait un peu d'aspect ambiant. Je pense qu'on peut s'attarder un peu à ça avant de tomber sur le casting et sur d'autres éléments de récit. L'ambiance qui est forte, qui est importante, on y va dans des tons, des tonalités un peu vertes aussi, en fait. Tu parlais d'anxiogène, j'imagine qu'on essaie de se monter une palette laquelle on ne ressent pas un grand confort nécessairement.
C'est toujours des ambiances bizarres, des colorations un peu étranges là, dans le vert, beaucoup. Très, très Ghostbuster, finalement. Des couleurs des fois un peu criardes même, je dirais. Mais tout ça, c'est dans le but d'avoir une sorte d'étrangeté, mais aussi d'identité graphique. Je pense que ça, c'était bien important. Puis le vert, il est omniprésent dans tout l'album, dans le deuxième tome aussi, très certainement dans les autres tomes. Puis ça permet aussi de bien séquencer le récit, l'histoire sur un album. Ça permet d'avoir justement des séquences qui vont être toutes rouges ou toutes vertes, toutes bleues. Moi, c'est comme ça que je fonctionne au niveau de la coloration. C'est que selon la scène, ben justement, il va y avoir une espèce de tonalité principale qui va tout de suite graphiquement dire au lecteur, OK, là, on est rendu dans la nuit. Ah non, là, on est rendu dans le bunker. Ah non, là, on est justement à l'extérieur, il y a la tempête, il y a des espèces de volutes de vapeur verdâtre partout. Donc, ça permet justement de tout de suite graphiquement bien situer le lecteur.
Oui, puis en fait, bien cadrer les ambiances selon les lieux, selon les endroits. Il y en a évidemment des endroits où on ressent ce confort-là, où on sent que nos personnages sont en train de souffler, que l'ambiance doit nous permettre aussi au lecteur un peu de souffler, de sortir de cette tension-là, de replonger ailleurs. Et ça a été facile de trouver cette palette-là, parce que si on revient par exemple à l'idée du vert, ben c'est pas évident de se monter une belle palette avec des couleurs comme ça. Donc, est-ce que ça a été, c'est venu rapidement ou beaucoup d'essais-erreurs?
C'est sûr que, il y a beaucoup d'essais-erreurs, mais en même temps, c'est vraiment à la réalisation, à la production, qu'on voit si ça marche ou si ça marche pas. Et puis, il y a des choses avec lesquelles, justement, j'ai joué. Comme on disait, des lumières vertes, j'en ai partout, mais en même temps, je vais pas modifier les couleurs, ou très rarement, je vais modifier les couleurs des personnages en général. Donc, ce qui fait que même si eux sont dans une ambiance verdâtre, ils deviendront pas verdâtres eux-mêmes. Donc, c'est un peu artificiel, on s'entend, là, dans la vraie vie, quand tu mets une lumière verte sur quelqu'un, il devient vert. Mais là, dans ce cas-ci, ça fonctionnait mieux comme ça. Puis ça permettait justement de ne pas avoir des personnages qui auraient eu des teints verdâtres tout le long de l'album. Sauf que, bon, dans d'autres situations, où est-ce que s'ils sont dans l'obscurité ou dans la nuit, là, ils vont être tout bleutés. C'est sûr et certain que les personnages, la couleur des personnages va être affectée. Mais bref, comme ça, je me suis donné des règles à faire. Puis en même temps, c'est vraiment à l'essai que j'ai vu si ça fonctionnait ou non.
Oui, puis pour les personnages, j'imagine que ça permet aussi de les faire ressortir d'autant à l'intérieur de. Puis entre autres, un personnage, Minus, qui est albinos, donc qui est très blême.
Ouais.
Donc en même temps, on allait perdre cet effet-là s'il devenait un peu trop influencé.
Vert ou bleu, ou selon les lumières, exactement. Mais par contre, par exemple, justement, tous les adultes qu'on voit dans le récit, eux, ils ont tous des espèces de visages verdâtres. Eux sont affectés par la lumière. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est de jouer avec ça. Oui, entre nos héros qui ont des belles couleurs de peau bien colorées. Puis t'as la menace qui, eux, sont toutes verdâtres, ils ont une espèce de décoloration de pigment de peau.
Oui, puis en même temps, ça nous ramène la menace à l'environnement comme tel, au bout du compte, parce que c'est pas nécessairement les adultes, mais c'est les adultes sous influence
de cet
environnement-là. Donc, la menace devient l'environnement, devient ce New York-là, dans cette espèce d'apocalypse dont on ne sait trop d'où elle vient. Donc, ça permet, j'imagine, de jouer un peu avec ce type de dynamique-là, parce que même pour les autres personnages, à un moment donné, on rencontre un personnage plus âgé, un adulte, qui, pour une raison X, lui, a gardé ses capacités. Ouais, ben lui se retrouve un peu comme des autres personnages aussi. est-ce que, parce que dans le fond, quand on regarde un peu, bon, juste avant, on le disait, tu as fait les liaisons dangereuses, avant ça, c'était Broadway. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu aussi, quand on regarde un peu tes dernières BD, on est un peu ailleurs dans un style visuel. Est-ce que tu as eu beaucoup de jobs pour passer de ces séries historiques-là, de l'ambiance à Whoops, OK, on passe dans une série un peu rythmique?
Oui. C'est sûr que oui, il a fallu que je trouve le bon ton graphique. Un style très un peu plus rond, plus franco-belge là, classique. Ce que je considère comme étant du franco-belge classique. Si je regarde dans mes séries passées, je dirais qu'une série comme White Crows était peut-être plus proche que ce que Créature est aujourd'hui. Donc c'est pas non plus un style graphique qui est complètement étranger là, à ce que j'ai déjà fait. Donc il est juste plus rond, plus coloré, plus tout public, plus jeunesse, en fait.
Et puis j'imagine que ça devient un peu, justement, White Crows, c'est ce vers quoi quand t'avais fait ta première série d'auteur et dessinateur-scénariste, tu t'étais lancé un peu vers ce visuel-là. Ça te permet
un peu de retrouver plus naturel pour moi. Oui, exactement. Revenir vers quelque chose qui est finalement qui m'a... avec lequel j'avais déjà travaillé, un style avec lequel j'avais déjà travaillé, puis qui me plaisait. Oui, exact.
Et j'imagine que dans un contexte comme ça, il faut se remettre un peu la main, que les premiers temps deviennent peut-être un peu plus difficiles pour reprendre un peu les
oui,
tours.
Oui, c'est vrai qu'en même temps, on a eu la chance, Stéphane puis moi, de prendre le temps de mettre en place toute la série, toute la série, mais bon, oui, les bases de la série. Et aussi, tu sais, moi, de mon côté, j'ai fait plusieurs essais des premières planches. Dans le dossier d'origine, on avait quand même une dizaine de pages, presque une dizaine de pages de fait. Tout ça, ça a été mis aux poubelles, ça a été refait complètement. La même chose au niveau des personnages, j'ai eu plusieurs refontes des designs des personnages. Pour pouvoir bien coller avec ce qu'on voulait raconter. Et puis, donc, on a eu pratiquement une bonne année là, où est-ce que ça a eu le temps de mûrir, ça a eu le temps de j'ai eu le temps de faire des essais, j'ai eu le temps de me poser des questions, puis de faire du dessin, de le mettre de côté, de revenir dessus par après en me disant, ok, là, avec le recul, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc, Oui, ça, c'est des choses qu'on n'a souvent pas le temps de faire. Toute cette partie-là de pré-production sur un album, souvent, c'est fait dans je pourrais dire, dans l'urgence, parce qu'on a signé le contrat, puis on veut commencer l'album. Ça, c'est un luxe là, de pouvoir prendre ce temps-là pour bien mettre en place les choses.
C'est le genre de choses, j'imagine, une fois qu'on le fait une première fois, une deuxième fois, la prochaine fois, on va avoir envie de retomber aussi dans ce rythme-là pour bien s'approprier l'univers, pour après ça bien oui. pouvoir le raconter puis le rendre. Là, c'est...
Oui, puis après un album, après un premier album, on a en main les personnages, on a en main l'univers. Mm-hmm. Donc là, ça devient plus, bon, c'est plus quasiment du quotidien, là, donc c'est plus naturel. On fait le deuxième tome, le troisième tome, on rajoute de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, mais ça reste quand même que tout est mis en place dès le premier tome. Donc, non, une fois que c'est fait, c'est un gros, gros morceau qui est réalisé.
Parce que j'imagine, une fois qu'on a trouvé, parce qu'on parlait du look, la rondeur, par exemple, des personnages, oui. Mais une fois qu'elle est trouvée, une fois, j'imagine qu'on commence un peu par ses personnages principaux. Dans ton cas, mon Chief, la Crado, la Taupe, Testo, Minus, Vanille. Donc, les six qui constituent un peu la base, c'est un peu les premiers qu'on doit trouver. Après ça, duquel tout le reste va un peu découler côté faciès, côté apparence.
C'est ça, tout ce qui est les nouveaux personnages qui vont s'introduire dans les prochains tomes. Ils ont tous à peu près sont tous dans le même style graphique, on s'entend. Mais en même temps, il faut tout qu'il y ait leur personnalité. Donc, il faut s'organiser pour que si on intègre un nouveau personnage, qu'il soit carrément différent des cinq, six personnages principaux, finalement. Donc, ouais, c'est... Mais comme une fois que c'est trouvé, une fois que tout est mis en place, c'est plus naturel. Là. Ça se fait assez bien.
Et côté casting, justement, comment ça s'est passé? Un peu parce que on le mentionne, on a six personnages qui sont quand même assez différents. J'ai l'impression que tu as misé beaucoup aussi sur une belle expressivité pour ces personnages-là, pour rendre autant dans les séquences d'action que dans les séquences de dialogue.
Oui. Mais ça s'est fait, comme je disais, beaucoup par essai-erreur, beaucoup de premiers jets, après ça de retravailler les looks, retravailler beaucoup... Bon, c'est sûr que moi, je suis pas un style de dessin qui est très cartoon. Là. Si j'ai affaire à une expression au niveau des personnages, j'exagère pas tant que ça. Donc, je suis pas quelqu'un qui va faire, par exemple, un style dessin animé là, où est-ce que l'action, la gestuelle est très très exagérée. Et ça, il a fallu que je travaille un petit peu là-dessus, là, que je décoince un peu mes personnages pour que ça soit plus expressif. Et c'est sûr que on le fait au fur et à mesure, on prend le temps de le faire, puis faut pas s'arrêter en se disant okay, combien de temps ça va me prendre pour développer ces personnages-là, parce que là, ça devient trop décourageant. Il faut que ça se fasse tout naturellement, petit à petit.
Et les personnages sont un peu divisés, j'ai l'impression, en deux approches philosophiques, disons-le comme ça, par rapport au monde dans lequel ils sont. Donc, d'un côté, tu as les quatre, donc Chief, Crado et les autres qui sont plus un peu dans une vision de composer avec le monde actuel. Donc, ils sont dans le présent, ils essaient de survivre et leur emphase est vraiment là-dessus. Et en parallèle, tu as Vanille et Minus qui, eux autres, sont restés peut-être un peu très ancrés dans le monde d'avant et ont espoir...
Que ça revienne.
Que le monde revienne en arrière.
Exact.
Ils font... un peu plus tragique aussi.
C'est ça. Eux, c'est vraiment Vanille et Minus. Surtout Vanille, en fait. C'est les personnages, les deux personnages qui ils font tout pour revenir à ce que c'était avant. Donc, la petite famille avec la mère, le père s'il faut, pour pouvoir justement revivre de façon plus normale possible. Alors que la normalité n'existe plus. Là, la ville est sous l'emprise de quelque chose de complètement hors norme. Et donc, ça fait des éléments qui sont un peu plus durs là, dans le récit. Parce que, bon, je ne veux pas révéler non plus pour le tome 2, mais il y a du développement aussi sur le tome 2, toujours dans cette optique-là, où est-ce que Vanille veut revenir à la normalité, et puis c'est pas toujours possible.
Et en même temps, ça devient intéressant parce que ça permet aussi de passer un peu justement des règles, des éléments, du fonctionnement. Ouais. Donc, on passe subtilement pour comprendre un peu, donc d'avoir ces personnages-là qui sont très axés sur l'avant et qui ont essayé de garder des éléments de cet avant-là avec eux, te permet d'amener des règles. Et entre autres, le personnage de la mère qui est là au début à la table avec eux et tranquillement, bon, on voit dans quel état elle est et on voit aussi à travers l'évolution qu'elle va avoir dans l'album les conséquences de cet environnement-là. Et ça, j'imagine que ça a dû être aussi un beau challenge de bien étayer ces éléments-là, de bien étayer cette évolution-là.
Ouais. Stéphane a vraiment fait un beau travail d'écriture là, sur l'approche là, au niveau de la mère de Vanille et puis Vénus. C'est vrai que ça, c'est un personnage qui est vraiment pivot puis pour comprendre bien l'univers. Donc, et on le développe encore sur le tome 2. Donc, c'est vrai que oui, il y a eu un beau travail au niveau de l'écriture pour Stéphane.
Et comme tu te retrouves avec cette ambiance à travers l'écriture, ben j'imagine que quand on aborde, par exemple, les scènes de famille chez Vanille versus les scènes de groupe chez la bande des enfants, ben on ne se retrouve pas dans la même ambiance, on n'est pas dans le même rythme parce que, dans le fond, on n'est pas dans le même beat, en fait, d'existence au bout du
compte.
C'est
ça, ça fait un beau contraste dans le récit de voir justement la réalité des deux groupes. Et puis de voir aussi qu'en réalité, Vanille va peut-être être obligée justement de se conformer à une autre réalité, puis de devoir s'allier avec le groupe de jeunes qu'elle rencontre dans le récit. Donc, il y a un beau contrepoint. Il y a un beau contrepoint au niveau du scénario.
Oui, parce que on revient à ce qu'on disait, au bout du compte, ils ne jouent pas dans le même film au début.
Non, c'est ça.
Pour le premier épisode, ils se rencontrent, ils vont se croiser, mais ils ne veulent pas jouer dans le même film. Le texte, le scénario le rend bien, et ça veut dire que toi, au niveau visuel, faut que tu adaptes ta présentation, faut que tu adaptes ton approche un peu, d'une certaine façon.
Mais ça, c'est... Écoute, moi, je travaille beaucoup de façon intuitive. Là. J'ai pas, je ne commence pas à analyser ça de manière très... très cérébral au départ. Je reçois le récit Stéphane, on en parle. Souvent, il y a des scènes sur lesquelles on va travailler ensemble parce qu'il y a des choses, par exemple, qui moi me conviennent pas, que je lui explique pourquoi. Et puis, dans le fond, c'est moi, je reçois un récit puis je le prends toujours par du côté de l'émotion. Est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce que ça, c'est captivant? Est-ce que ça, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnages-là? Puis à partir de là, j'y vais de façon très, très, très intuitive sur la réalisation des planches. Puis c'est par après qu'il y a des gens comme toi qui vont dire « Ah, ben là, oui, il y a une belle, un beau contrepoint sur telle scène. » Donc moi, quand je le réalise, c'est pas des choses que nécessairement que je vais voir dans un premier temps. Donc ça se fait. Je vois si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Puis après, on peut en parler.
Et à travers tout ça, il y a aussi l'autre personnage dont on n'a pas encore parlé, ou les autres personnages. On a mentionné un peu des adultes zombifiés, mais à travers tout ça, il y a aussi des créatures d'un autre monde. C'est pas un punch puisqu'ils sont sur la couverture, donc je ne dévoile rien. Mais dans le fond, là, on se retrouve aussi où... on a donc les personnages qui sont un peu dans l'environnement, entre guillemets, les adultes. On a les enfants donc qui sont un peu en mode héroïque, un peu à l'avant. Et on a en parallèle donc ces personnages-là dont on doit sentir aussi qu'ils viennent d'un autre monde, qui ne sont pas nécessairement dans la même réalité, qui ne se déplacent pas au même rythme et qui a quelque chose qui se passe quand elles apparaissent, dans le fond, sur les pages, on peut avoir ce sentiment que tout s'arrête, au bout du compte.
Oui, bien, ça, c'était très important à l'arrivée, justement, d'une des premières créatures, de sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là. Donc, de sentir que c'était pas... ça arrive pas au début de l'album, ça arrive quand même... on a eu le temps de mettre en place, d'introduire tous les personnages, on a eu le temps de commencer à faire de l'action. Donc, quand justement une des créatures, on les appelle les hybrides là, ou les têtes de pieuvre dans le récit, quand ces êtres apparaissent, ou en tout cas quand on en voit une, c'est là que le lecteur doit se dire, OK, là, ça, là, c'est pas normal, là, ou ça, c'est pas juste des humains zombifiés, là, c'est vraiment dangereux. Donc, mais en même temps, c'est étrange parce que c'est des créatures qui ne parlent pas ou sont muettes. En tout cas, on ne les a pas entendues parler jusqu'à présent. Donc, c'est ça, il y a un petit côté, c'est le danger de l'histoire, mais c'est aussi le mystère, d'où ils viennent ces créatures-là, c'est quoi ça. Et encore une fois, dans les prochains temps, on va en apprendre un peu plus.
Évidemment, dans la construction visuelle, et c'est difficile un peu de l'aborder sans trop aller loin, évidemment. Il y a des éléments là-dedans aussi où on se garoche un peu sur Wikipédia pour essayer de creuser, parce que les réponses, on a hâte de les avoir, et ça, c'est au bénéfice de la série, évidemment, c'est parce que vous réussissez bien à nous amener là-dedans, mais je disais au départ, on s'assoit sur une certaine mythologie littéraire. Oui. Je ne veux pas qu'on aille trop loin là-dedans, mais j'imagine que dans ta création à toi, subitement, d'un côté, il y a la recherche pour New York, le côté photographique aussi pour l'environnement réel, et en parallèle, il faut aussi que tu explores ces assises littéraires-là, puis la mythologie dans laquelle tu vas inscrire ton récit ou que tu vas intégrer dans ton récit.
C'est sûr que le danger, c'était d'aller chercher des codes visuels ou des archétypes trop évidents dès le départ. Trop évidents sur justement ce récit littéraire là, qui nous inspire, là, qui a inspiré la série. Donc, il fallait qu'on laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose qui est dans cet esprit-là. Sans nécessairement, moi j'ai pas commencé à regarder tout ce qui avait été fait graphiquement sur cette œuvre-là littéraire d'horreur. Donc j'y suis allé assez mollo. Là. Donc j'y suis allé selon ce que je ressentais. Comment ça me parlait cette lecture de ce roman, de ce romancier d'horreur. Donc, oui, c'est là que les lecteurs, les jeunes lecteurs qui ne connaissent pas du tout la littérature horrifique, eux, ça leur dira rien. Puis je pense qu'ils vont lire toute la série. Puis pour eux, ça n'aura pas d'importance que ça soit référencé ou non. Mais pour les lecteurs qui ont un peu de culture ou qui ont un certain intérêt dans le genre, ben, eux vont découvrir des choses, puis ils vont avoir des points sur lesquels ils vont rebondir. Puis ça va de là est tout l'intérêt là, de travailler sur la jeunesse et aussi du grand public.
Oui, parce qu'effectivement, ça serait desservir un peu créature de le limiter, entre guillemets, à une série jeunesse. Pour moi, en fait, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est tout public. Et je pense que tu mets le doigt sur un bon exemple où il y a différents degrés de lecture qu'on peut en avoir selon l'expérience littéraire qu'on a ou non. Et clairement, les jeunes n'ont pas besoin de savoir à quoi tu réfères. C'est un nice to have pour les adultes.
Exactement. Il ne fallait pas non plus que ça devienne une œuvre geek ou quelque chose de très, très, très pointu. Donc, il fallait être vraiment le plus général possible, puis travailler sur des éléments universels, dans le fond. Là. C'est des enfants qui ont perdu leurs parents, dans le fond. C'est ça, l'histoire. Et puis, eux, ils veulent... Au fond d'eux, ils veulent tous revoir leurs parents un jour. Donc, c'est le message du récit, là, à la base. Mais à travers ça, on brasse d'autres choses, on brasse d'autres éléments. Là.
Oui, puis même en fait, l'idée justement que les enfants veulent revoir leurs parents éventuellement, c'est qu'on n'est pas non plus, tu sais, on parlait d'adultes zombifiés, mais on n'est pas dans un récit de zombies justement parce que leur but, c'est pas de les tuer, les adultes, ils veulent qu'ils reviennent. Donc, on n'est pas dans une logique meurtrière non plus. Et j'imagine que ça résout aussi, ça crée des enjeux intéressants pour vous d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue visuel, et ça en résout aussi parce qu'on n'est pas dans des BD de fusils,
de gore, exactement.
Parce que la mort n'est pas l'objectif au bout du compte.
Exact. Ben, de toute façon, il fallait qu'on reste quand même assez soft parce que justement, on était chez Dupuis. On n'a pas trop le choix. Mais en même temps, ce n'était pas non plus le but là, de faire une histoire où est-ce qu'il y avait du sang partout, puis des tripes à toutes les trois pages. Donc, oui, il fallait qu'on... En fait, ça sert bien le récit, cette idée-là que, dans le fond, les jeunes, oui, ils veulent... Ils sont toujours en danger face aux adultes, mais ils ne sont pas là pour tuer les adultes.
Et donc, on a différents éléments, en fait, je pense, différents éléments caractériels autour de cet univers-là. Dans le fond... Ça devient un peu aussi des règles de base au bout du compte. Donc, on établit un peu ces règles-là. On se dit, OK, voici ce qu'on veut avec les adultes. On va aller chercher un peu de mythologie là-dessus pour s'en inspirer sans nécessairement justement faire un copier-coller de cet univers-là. Donc, tout ça permet d'aller chercher ces règles-là. Et j'imagine que d'un point de vue scénario, d'un point de vue dessin, après ça, ça devient aussi des moteurs intéressants pour développer les enjeux, pour développer des situations, pour cadrer un peu tout le reste. Parce que, dans le fond, les contraintes que vous donnez à l'idéation du monde deviennent aussi des beaux moteurs scénaristiques.
C'est, ça se trouve à être des barèmes qu'on se donne, des contraintes. Puis je pense que souvent, pour être créatif, l'idée, c'est de se mettre quelques contraintes bien précises, puis de se dire, OK, avec, je travaille avec ça, puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Puis des fois, tu finis face à un cul-de-sac parce que tu te dis, OK, j'ai mis cette contrainte-là, faut que je ne peux pas aller dans ce sens-là. Donc, j'arrive à une situation où est-ce que, à cause de ma contrainte, il faut que je trouve une solution qui est hors norme ou qui est pas habituelle. Donc, c'est là que ça devient créatif, c'est là que ça devient intéressant.
Et c'est la même chose, j'imagine, aussi au niveau des réponses, au niveau de l'échelle du temps qu'on choisit de se donner. Donc, il ne faut pas trop ouvrir de portes parce qu'on sait qu'il va falloir les refermer. Donc, il faut contraindre un peu la mythologie. Ouais,
c'est ça. Ouais, c'est touché. Là. C'est vraiment... Il faut faire attention. Il faut savoir quoi révéler, quoi... Des fois, on aimerait en dire plus, mais en même temps, on se dit, OK, non, il faut faire attention ici. On ne peut pas... brûler le, comment on dit, vent de la mèche, c'est ça? Oui. Donc, c'est vrai que c'est touché, il faut faire attention.
Et parallèlement, on a mentionné au départ, en fait, on se donne 70 pages pour les tomes de créatures, pour se donner un peu plus d'espace, pour avoir le temps de placer les éléments, les ambiances. Oui. Mais d'un autre côté, je ne veux pas que les gens qui nous écoutent aient l'impression que ce n'est pas une BD qui va au rythme très lent non plus. Le rythme est quand même rapide, c'est rythmé, ça déboule,
oui, il y a beaucoup d'action. Ça. Il y a beaucoup d'action, exactement. C'est juste que les gens qui veulent savoir tous les tenants et aboutissants d'un scénario ou d'une histoire ou d'un univers, eux vont peut-être être frustrés par un premier tome comme ça, parce qu'ils vont se dire on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent les créatures, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, oui, mais en même temps, on apprend plein de choses sur justement les personnages principaux, sur l'univers, sur... Puis il y a toute une série de scènes d'action qui, me semble, font que c'est un premier tome qui est très agréable à lire, qui n'est pas juste un tome d'introduction, qui est vraiment un tome qui a une histoire complète.
On tombe directement dedans, je veux dire, on arrive, scène d'action, ça déboule rapidement, puis j'imagine qu'encore là, on est un peu dans rythmer un peu l'ensemble, donc dans l'idée d'équilibrer des séquences, de maximiser l'espace qu'on a disponible aussi pour... en tirer tout le potentiel, d'une certaine façon.
Oui, oui. Puis chaque tome apporte son lot d'informations puis ses révélations. Donc, le tome 2 va sortir à la fin de cette année. Donc, les gens n'auront pas trop à attendre pour avoir la suite.
Exact. Puis il y a toujours Spirou en parallèle. Donc, elle existe à beaucoup d'endroits. Et de ton côté, j'imagine que... est-ce que tu as l'impression que tu en découvres un peu plus sur tes personnages quand ils sont dans l'action, justement, ou au contraire, que c'est plus dans la manière dont tu les mets en scène, dans les moments de discussion, dans les moments plus intimes, que tu vas réussir peut-être un peu plus à capter leur...
Autant des deux, là. Autant des scènes d'action que les scènes intimistes. C'est les personnages, on finit par les connaître. Moi, de mon côté, en les dessinant, je finis par les connaître. Puis par aussi savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. On a eu beaucoup de discussions, Stéphane puis moi, sur le tome 2, puis aussi encore sur le tome 3 qu'on va commencer incessamment. Donc, au niveau du scénario, il y a des choses sur lesquelles moi, j'ai dit à Stéphane, j'ai dit non, ça, j'y crois pas parce que le personnage ici ne peut pas agir comme ça. Donc, le personnage, on l'a déjà mis en place dans le premier tome, il est typé de cette manière-là, il ne peut pas agir de la façon dont tu l'as décrit dans la scène. Donc, ça, il y a des choses sur lesquelles, justement, moi, je réagis, puis parce que justement, à force de dessiner, à force de mettre en scène, pour moi, c'est évident comment ils vont réagir, comment ils vont agir dans le futur.
Donc, encore là, c'est toujours un peu, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'aisance vient au fur et à mesure de le dessiner avec l'exercice au départ, puis après ça, instinctivement, on sait un peu comment les placer, comment les faire réagir.
C'est ça, exactement. Donc, on finit par les côtoyer, hein, on les côtoie tous les jours, dans mon cas, je les côtoie tous les jours, je les dessine régulièrement, donc ben, c'est ça, je finis par m'imprégner de leur... ou plutôt, c'est eux qui... peut-être ce sont des esprits qui viennent s'imprégner sur moi, dans le fond. C'est moi qui est influencé par mes personnages. Ils ont leur propre vie. Mais bref, oui, c'est assez particulier pour ça. Ouais. Quand on vit avec des personnages en papier comme ça pendant plusieurs années, déjà, ça fait au moins plus que 3 ans. Donc, je veux dire, ils nous influencent. Ils finissent par nous influencer.
Et aussi, à travers, on parlait des scènes d'action, des moments de tension, mais j'imagine qu'il y a toujours aussi, et je parlais un peu de maximiser l'espace disponible, je pense à une scène où il y a Chief et Lacrado qui sont à l'extérieur de l'appartement de Vanny et Minus. Donc, il y a l'action principale qui se déroule un peu et la tension entre les deux situations, celle qui se vit à l'intérieur, celle qui se vit à l'extérieur. Et en même temps, à travers tout ça, dans un esprit de rentabilité, entre guillemets, et d'efficacité, on a la ville aussi qui est en fond et on sent qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Donc, subitement, il y a 3 actions qui se côtoient à l'intérieur d'une même séquence. Donc,
c'est toujours de compresser le plus possible l'information pour le lecteur pour qu'on aille à utiliser 200 pages pour raconter notre récit. C'est d'être d'une façon, d'être efficace dans la mise en scène. Mais en même temps, on est aussi dans un récit où est-ce que c'est un page-turning. On veut savoir, donc on veut tourner la page pour connaître la suite. Donc, on développe des trucs pour essayer de maximiser l'information.
Donc, l'attention court terme, l'attention long terme, dans le fond.
Oui, exactement. Puis Stéphane l'a écrit comme ça aussi en faisant des courtes séquences. Puis d'assurer finalement un peu l'action, passer d'une scène à l'autre, tac, 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 toujours dans l'optique de vouloir tourner la page pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir la suite.
Puis entre les séquences qui sont à l'extérieur et d'autres séquences aussi, je pense par exemple au laboratoire, on a parlé de cet adulte-là qui, pour une raison X, a gardé une partie de son esprit. Et là, on est dans le noir, c'est très sombre, des pages beaucoup plus...
Des ambiances différentes, carrément. Exactement. Puis toujours dans l'esprit que le lecteur, visuellement, il faut qu'il comprenne qu'il passe d'une scène à l'extérieur à une scène dans le fond d'une banque, en fait. Là, le vieux gros taré qui s'appelle, il est dans le fond d'une banque avec des bouquins puis toutes sortes de trucs qu'il a ramassés à gauche et à droite. Donc, c'est deux ambiances complètement différentes. Donc, il faut que graphiquement, il faut que tout de suite le lecteur comprenne où est-ce qu'il est rendu dans le récit.
Et du ciel jusqu'aux profondeurs. Et au-delà, visiblement, avec où on s'en va à la fin du premier tome. Donc, tout ça, on revient un peu avec l'idée d'agenda. Donc, tu disais, le deuxième tome est complété, tu es déjà sur le troisième, donc ça déboule, dans le fond, comme ça.
Ça roule, exactement. Donc, moi, pour le tome 2, comme je disais, comme c'est fini, il devrait sortir en Europe au mois d'août, donc au Québec, avec un peu de chance au mois de septembre, à la rentrée. Et puis, le tome 3, j'en ai pour une bonne année de travail, donc ce qui veut dire que peut-être au mois de juin, l'année prochaine, on devrait voir apparaître le tome 3.
Et j'imagine à travers tout ça, donc on a parlé de la prédiffusion dans Spirou. Oui. J'imagine que rapidement aussi, et c'est un peu ce que ça vient changer, j'ai beaucoup axé sur l'aspect rythme de travail parce que subitement, ça impose un autre rythme. Mais parallèlement, ça veut dire aussi que rapidement, vous avez commencé à avoir des retours des lecteurs ou d'un certain lectorat à tout le moins, donc ceux du magazine.
Oui. Bon, on a eu des jeunes lecteurs qui... parce qu'il y a une petite chronique dans le journal Spirou qui dit en fait qu'on peut envoyer sa photo en tant que lecteur, on t'envoie ta photo, et puis tu dis qu'est-ce que tu aimes dans la vie, puis c'est quoi tes séries préférées. Puis on a commencé à recevoir des jeunes qui ont envoyé leur photo en disant ben moi, j'aime le foot, j'aime Créature. Donc ça, c'est rigolo parce qu'on commence à avoir des fans. Mais bon, je veux surtout voir l'étendue de la popularité de Créatures en festival puis en dédicace. Ça va être là que je vais pouvoir mesurer là, qui sont mes lecteurs, qui sont les jeunes et les moins jeunes qui lisent la série. Donc, peut-être pas encore cette année, mais peut-être l'année prochaine, je devrais commencer à faire des festivals, puis on verra.
J'imagine qu'on finit par avoir hâte un peu de retrouver l'ambiance un peu de festival, justement,
ouais.
Ce type de rencontre-là, pour justement, comme tu dis, voir un peu, mais c'est qui lit,
ben, c'est qui, exactement, c'est qui les lecteurs, donc, surtout que là, ça ne peut pas être les mêmes lecteurs que les liaisons dangereuses, donc j'espère que je vais avoir des lecteurs différents, ou des jeunes, ou des très jeunes, donc... c'est ça. Je devrais avoir des réponses dans les prochaines années.
Effectivement. Pas tout de suite. En attendant que les permis de vol soient
ouais, c'est ça.
On a le droit de se revoir et le reste. Et d'ici là, ben, évidemment, on le disait, donc les gens peuvent mettre la main sur Créature, donc le premier tome qui est disponible en librairie au Québec depuis déjà un certain temps, aussi en Europe. Cet été en Europe, le deuxième tome. Cet automne au Québec, donc le deuxième tome. Le troisième qui s'en vient. Et on continue de vous suivre un peu là-dedans. De ton côté, Jeff, en terminant, c'est tu vas vraiment vivre dans cet univers-là pour les prochaines années ou tu développes aussi des univers en parallèle pour casser un peu le rythme?
Non, là, je suis vraiment concentré sur Créature pour autant que ça va prendre. Minimum 2 ans, maximum 3-5 ans, peut-être, je ne sais pas. Donc, je devrais pas avoir d'autres projets en parallèle d'ici quelques années.
Donc, tu te prépares un peu à une routine de type Crépuscule des dieux ou
En même temps, il y a aussi le fait que c'est du 70 pages, je fais la couleur, donc je mets vraiment une bonne année là, par tome. Donc, je n'ai pas le temps de faire d'autres projets ou d'autres trucs en parallèle.
Est-ce qu'on a la même dynamique avec une série, vous faites curiosité, là, comme oui. Par exemple Crépuscule, Créature, donc quand c'est sur des années que tu développes un peu, que c'est très concentré versus avec Broadway, par exemple, ou avec Les Liaisons dangereuses, c'est que c'est un diptyque. Que c'est des expériences qui sont nécessairement plus concentrées. Est-ce qu'on les vit de la même façon? Ou...
Bonne question. Non, on les vit de la même façon parce que quand on est sur le projet, on est dedans à 100%. Peu importe là, que ce soit une longue série ou une histoire de 1 ou 2 tomes. Ce qui est la différence, c'est justement après 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est là que... Ce qui peut arriver, c'est qu'on développe soit une espèce d'habitude, puis on a moins la flamme sur le projet, parce que à force de faire toujours la même chose, on peut se retrouver comme une sorte de carcan, puis de plus se surprendre du tout là, tu sais, se surprendre nous-mêmes dans notre travail. Donc ça, c'est le danger. Moi, je pense que j'aurais pas été capable d'être un auteur comme dans les années 60-70, là, qui ont travaillé pendant 25-30 ans sur la même série, le même personnage, le même truc. Je sais pas. Mais je me dis que au bout d'un 10-15 ans, là, ces gens-là, ces auteurs-là, ils ont dû tomber dans une déprime totale. Mais ça doit être difficile pour eux. Mais moi, j'aime quand même me concentrer sur un seul projet, pas trop m'éparpiller, même si j'ai eu souvent l'occasion de faire des projets en parallèle. J'aime ça quand même rester pendant un certain temps, que ce soit une année complète sur un seul et même projet. Donc, puis ça va être avec les années qu'on va voir si justement je m'essouffle ou je réussis à garder le rythme sur Créature.
Oui, puis en même temps, ben, chaque projet, de toute façon, est assez différent. Donc, si on y va en termes d'années, mais reste que tu viens de faire un beau 5 ans sur, ou 3, quelques années sur des séries historiques, avec la mythologie celtique un peu avant, un peu de science-fiction. Donc, reste que, si on envisage la variété sur le long terme, la variété est au rendez-vous, justement.
Exactement, c'est ça. Donc, ça me permet justement de ne pas avoir un truc trop quotidien, trop plate.
Et c'est au bénéfice des lecteurs aussi, évidemment, puisqu'on te suit dans tes explorations, on te découvre et on te redécouvre aussi. Et je rappelle, ben, on jasait autour du premier tome de Créature, donc La ville qui ne dort jamais. Je rappelle, on l'a mentionné, que c'est scénarisé par Stéphane Bedbédé et c'est dessiné donc par Jeff, colorisé aussi de ton côté. Et c'est disponible chez Dupuis. Jeff, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie, Raymond. À la prochaine.
Et bien voilà pour cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de partager cette heure avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.